premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité et une première rencontre toujours singulière, en direct sur La Première. Notre première invitée est une comédienne et metteuse en scène valaisanne. Née à Sierre, elle grandit à Verras auprès d'une mère peintre dans une atmosphère qu'elle qualifie de poétique et rigolote. Après des cours de théâtre en Valais, c'est à Paris qu'elle continue de se former au cours Florent et dans l'école de Niels Arestrup. Ensuite, elle s'essaie à des études de russe à l'université de Genève, passe une année à Moscou et revient vivre en Suisse. En 2012, elle crée avec son mari le collectif Stogram, avec qui elle met sur pied de nombreuses productions. Aujourd'hui, 47 ans, deux grands garçons, cette Sierroise prépare différents projets qui n'attendent que la fin de la pandémie pour exister. Notre deuxième invitée est une guérisseuse valaisanne qui exerce à Monthey. Depuis son enfance, elle perçoit des choses que d'autres ne voient pas. Pendant de longues années et par conformité, elle décide de taire ses aptitudes médiumniques avant qu'un événement personnel, la naissance de son fils, vienne tout réveiller. En 2014, avec sa grande complice Fabienne Dayer, elle coécrit le livre « Faiseur de secrets et dons de guérison, comment ça marche ?» aux éditions Favre. Et tout dernièrement, c'est son oracle « La puissance du cœur » sous la forme d'un jeu de cartes qui voit le jour. Notre première invitée est Olivia Seigne, notre seconde invitée est Françoise Claire. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Françoise Claire.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
Bonjour Olivia Seigne.
Bonjour.
Et bienvenue à vous aussi.
Merci beaucoup.
On va commencer avec vous. Racontez-nous un premier rendez-vous qui vous a beaucoup touché, beaucoup marqué.
Alors, c'est étonnant parce que le premier rendez-vous dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma première rencontre avec un fantôme.
Ouh.
Donc voilà.
On est pile dans le mille avec Françoise Claire.
Voilà. Effectivement, c'était il y a quelques années. J'étais enceinte de mon premier enfant et nous logions dans un hôtel dans les Grisons. Et je dormais pas. Et puis j'ai vu quelqu'un sortir de l'armoire, me regarder et puis continuer son chemin. J'ai pas eu peur, j'étais évidemment très surprise. J'ai tout de suite réveillé mon mari, je lui ai raconté, il m'a cru. Et voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que j'en avais un peu parlé autour de moi de cette expérience. Et un jour, un ami m'appelle et il me dit « Je n'ai jamais douté de ta parole, mais regarde quand même l'article qui vient de paraître dans le 24 heures. » Et en fait, c'était un article qui racontait que beaucoup de jeunes clientes de cet hôtel racontaient avoir vu un fantôme, à tel point que les propriétaires de cet hôtel avaient fait appel à des médiums pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils ont pu identifier ce fantôme qui était belge, qui s'appelait Glion, et qui a été venu pour se faire soigner d'une maladie du sang à l'époque, et qui était tombé tellement amoureux d'une infirmière qu'il n'arrivait plus à partir malgré le fait qu'il était mort.
Ok, intéressant.
C'est voilà. Complètement fou cette histoire, Olivia Seigne. Mm-hmm. Et donc ce premier rendez-vous, ce fantôme-là, pourquoi est-ce que vous aviez envie de nous le raconter pour débuter cette émission ?
Alors parce que évidemment c'est un premier rendez-vous qui m'a marqué. Je vous avoue qu'après j'en ai plus eu de pareil. J'ai un peu des intuitions, mais où je pourrais toujours me méfier un peu de moi-même et de mon esprit romanesque. Alors que là vraiment, je n'ai jamais douté de moi. Je ne rêvais pas. Et puis grâce à ce fantôme aussi, ça m'a accompagnée. Ça m'a accompagnée notamment dans le premier spectacle que j'ai écrit et mis en scène avec justement mon mari Alexandre Fogel et qui s'appelait Life After Life. Et qui partait du postulat que peut-être qu'effectivement à la mort, il y a quelque chose qui ne s'éteint pas tout à fait. Et ça levait un premier voile, je ne sais pas ce que ça m'amenait comme rationalité, mais en tout cas dans mon imaginaire et dans ce que j'avais envie de raconter au théâtre, c'était extrêmement riche et inspirant. Mmh. Et alors donc c'était l'histoire de deux personnes qui se rencontrent au seuil de la vie ou au seuil de la mort, et qui échange dans la nuit, parce que le spectacle aussi se passait dans la nuit totale. Voilà.
C'était à Sion, c'est juste ?
Oui, c'était à Sion, au Petit Théâtre, et c'était grâce à Michael Abbé, directeur du Petit Théâtre, qui nous avait invités et conviés à créer ce spectacle là-bas.
Donc un fantôme finalement qui vous a permis de plonger dans une forme de créativité, d'un théâtre dans le noir et d'une nouvelle forme, c'est ça ?
Exactement, ouais.
Intéressant, Olivia Seigne. Françoise Claire, avant de nous raconter votre premier rendez-vous, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce fantôme ?
Ah ben bien sûr. C'est intéressant parce qu'en fait, comme là vous dites, après vous n'avez plus tellement eu d'autres rencontres, mais je pense que d'avoir eu ce ressenti-là, cette vision-là, pour vous, ça a ouvert passablement chose dans le champ des possibles, en fait. Probablement que, suite à ça, il y a des questionnements en disant, alors, ok, il se passe quelque chose derrière le voile, qu'est-ce que c'est? Et ça fait peut-être tomber pas mal de blocages et de fausses croyances et de se dire, mais il existe quelque chose. Et je trouve que c'est apaisant quand on commence à comprendre ça et à l'accepter. Je trouve que c'est apaisant vis-à-vis de la mort.
Merci Françoise Claire pour ce commentaire. C'est votre tour de nous parler de votre premier rendez-vous.
Alors, moi j'avais envie de vous parler de ma rencontre avec Fabienne Dyer de Riva, avec qui j'ai écrit ce livre plus tard. On s'est rencontrés en 1999, chez des amis communs. Et Fabienne a une formation de massage, et j'avais mal au dos. Enfin bref, en discutant, elle me propose de me masser. Et au moment où elle met ses mains sur mes épaules, je vois sur mon écran mental des images qui correspondent à une vie antérieure, en fait. Et je vois une femme en Inde, donc habillée en indienne, une très belle femme. Je vois une femme plus âgée qui est sa maman. Je vois un enfant qui est sa fille. Et je vois passer, c'est comme un film, en fait, qui passe sur mon écran mental. Et je regarde Fabienne et je vois dans ses yeux qu'elle a les mêmes images que moi, en fait. Et elle est en train de voir sur son écran mental exactement la même histoire. Et du coup, on s'est isolés. Et puis là, il fallait échanger en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as vu la même chose que moi? Et puis, on a compris que c'était une vie antérieure qu'on avait vécue ensemble. Et cette femme, c'était moi. La maman, c'était elle. Et la petite fille était ma fille. Et puis, on a eu la suite de l'histoire plus tard. Et puis, c'est quand même assez chamboulant, en fait, de comprendre qu'on a ce lien d'âme de cette manière-là. Et puis, on a commencé à se voir assez souvent, finalement. On s'est rendu compte que on avait plein de questionnements qui allaient dans le même sens, plein de ressentis qui allaient dans le même sens. Ça a été génial d'avoir quelqu'un avec qui partager, de vraiment dire, mais là, dans ce cas-là, je ressens ça, puis toi, tu ressens quoi? Et de petit à petit, de découvrir toutes les vies, ou en tout cas, un grand nombre de vies antérieures qu'on a déjà partagées. Petit à petit, on a pris conscience qu'on devait commencer à travailler ensemble en tant que guérisseuse. Les choses se sont mises en place. On a ensuite compris qu'on avait déjà vécu plein de vies antérieures où on avait déjà travaillé ensemble en tant que guérisseur ou guérisseuse. Et ça fait ce lien qui fait que on travaille ensemble et c'est vraiment complémentaire.
C'est dingue ça, Françoise Claire, aussi dingue le fantôme d'Olivia Seigne pour débuter cette émission. Donc une amitié avec Fabienne Dyer de Riva, donc a écrit ce livre avec vous, je vais en redonner le titre, ça s'appelle « Faiseur de secrets et dons de guérison, comment ça marche ?» C'est paru en 2014 chez Favre. Et donc vous êtes rendu compte de cette grande complicité qui vous unissait et depuis vous ne vous lâchez pas, vous travaillez ensemble à Monté, c'est ça?
C'est ça. On a un atelier à monter où on reçoit pour les soins en présentiel quand les gens viennent nous trouver. Il y a aussi ce qu'on fait à distance, ce qu'on appelle les secrets de guérison. On le fait aussi les deux, mais là, du coup, c'est à distance. Il y a des stages, des formations qu'on donne et de nouveau, c'est toujours ensemble. Moi, je travaille avec les énergies qu'on appelle de l'univers, les énergies... On dit que chacun se nourrit du cosmotellurique. Alors moi, je travaille avec les énergies cosmiques. Et Fabienne travaille avec les énergies telluriques. Et on a en nous ces deux énergies. Et comme ça, quand les gens viennent à l'atelier, eh bien chacun, on donne chacun un de ses pôles. Et c'est complet pour la personne qui est en séance.
Vous vous complétez parfaitement, si je comprends bien.
C'est ça. C'est ça qui est intéressant, en fait.
Un indivisible duo de femmes pour la guérison, si je comprends bien, Françoise Claire. On va voir comment ça va se passer, ce duo entre toutes les deux. C'est le moment où vous pouvez vous poser des questions. Moi, je me retire. Françoise Claire, vous avez quelques minutes pour en savoir plus sur Olivia Seigne. C'est parti.
Alors, moi, je trouve intéressant, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer, parce qu'on peut dire, ok, je me mets en scène, je vais moi sur la scène, et de dire, bah, finalement, j'ai envie de créer moi des pièces, créer des choses et faire apparaître quelqu'un d'autre. Comment on switch d'un à l'autre?
Mais c'est un désir en fait que j'avais depuis longtemps. Donc j'adore être comédienne et puis m'adapter dans l'univers d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène. Mais j'avais à un moment donné, ça a été très fort, j'ai eu besoin d'exprimer mon propre univers. Et donc j'ai décidé de passer à la mise en scène et de faire un peu d'une pierre deux coups parce qu'on a aussi écrit le texte. Mais c'est vraiment parti la première fois pour ce spectacle Life After Life. De cette proposition de Michael Abbé de créer un spectacle dans la nuit, et puis en plus de cette expérience qui m'a accompagnée, qui m'a quand même, comme vous disiez tout à l'heure, pas mal chamboulée, et voilà. Et puis après, ben ça assez naturellement, ben j'ai continué en fait à exercer et le métier de comédienne et de metteur en scène, et j'ai vraiment la chance de pouvoir faire les deux et de porter des projets avec ces deux options, quoi.
Et d'où vous vient, selon vous, votre inspiration quand vous créez comme ça?
Ça dépend, comment dire, l'inspiration, ça passe par beaucoup de travail, en fait, de lecture, de s'immerger dans des textes, de rêver. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée aussi malgré soi. En tout cas, je pense que ça passe par le travail, pas forcément par quelque chose de très velléitaire, mais par un très grand désir d'approcher une forme et d'aller jusqu'au bout d'une envie créatrice, quoi.
Et quand vous créez comme ça, c'est des flashs qui vous viennent ou c'est vraiment dans la réflexion où vous avez envie de créer une histoire? Ou bien des fois vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui arrive et j'ai envie de travailler là autour sur ce sujet-là ou...
Alors, il y a pas mal de cas de figure, mais par exemple, c'est marrant, c'est quand l'esprit est en paix, qu'il y a des choses qui arrivent. Mmh. En fait, par exemple, quand je fais le ménage, alors je prône pas du tout le ménage, hein, c'est très embêtant et tout ça, c'est vraiment une corvée pénible, mais quand même, parfois, je suis dans mon ménage, c'est un peu aux années 50, mais enfin bon, tant pis, et tout à coup, il y a des choses qui se passent, des pensées qui arrivent comme ça, parce que je vais pas les chercher, parce que justement, il y a quelque chose de fluide à l'intérieur, de paisible, où je suis tranquille. Et là, je pense que les canaux sont ouverts, justement, pour que ça affleure.
Est-ce que on peut appeler ça de l'inspiration?
Oui, je pense que... Oui, on peut appeler ça comme ça, allez. Soyons fous.
Merci Françoise Claire pour vos questions. On va inverser ce petit jeu. Olivia Seigne, c'est votre tour de poser des questions.
Alors, quand vous êtes-vous rendu compte que vous aviez ce don, ou en tout cas cette présence à une autre dimension du monde et de l'univers quand vous étiez petite, ou est-ce que vous avez un souvenir précis, ou c'est quelque chose qui vous a accompagné depuis toujours?
C'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, mais petite, je pensais que tout le monde avait ces ressentis-là. Et puis c'est plus ou moins vers l'adolescence que j'ai compris que, ben non, c'était pas tout le monde et puis que j'étais un peu bizarre. Et puis rentrer dans le cadre, j'ai mis ça de côté. Parce que je captais ça collait pas entre le comportement des gens et ce qu'ils disaient, et je trouvais ça bizarre qu'ils fassent l'inverse de ce qu'ils disent finalement, ces gens-là. Et après, quand j'ai compris que moi je captais et qu'ils captaient pas, j'ai vraiment mis ça de côté pour faire partie du groupe, comme on dit. Et puis plus tard, le temps que je m'installe dans ma vie, hein, ma vie familiale et tout, et c'est plus tard que tout est revenu bien plus fort, que tout s'est rouvert d'une manière bien plus fort, et là je me suis lancée dedans et j'ai commencé à chercher et à vouloir comprendre ce que c'était, avoir des réponses de ce que c'était cette sensibilité-là finalement.
Et vous êtes la seule personne de votre famille qui avait ce don, si j'ose dire.
Alors justement, c'est une fois que j'ai eu fini cette quête de compréhension, que j'ai compris que j'avais un oncle et que j'ai une cousine qui sont guérisseurs. Ce que j'ignorais complètement jusqu'au moment où j'ai eu mes réponses. C'est seulement là que j'ai eu le droit de savoir à quelque part, parce que pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc j'ai dû faire ma propre quête. Mais c'est ce qui me correspondait, c'est bien comme ça.
Et puis vous parlez de... Enfin, c'est étonnant parce que vous ne parlez pas seulement d'une vie antérieure, mais vous avez eu chance d'avoir accès à plusieurs vies antérieures que vous avez vécues.
C'est... Pour moi, une âme vit beaucoup de vies. Elle vient pour apprendre, pour évoluer, pour expérimenter. Et puis, selon ce que j'ai le droit d'avoir comme information ou ce que je vis, de temps en temps, j'ai accès à une vie antérieure que j'ai vécue. Parce que des fois, il y a des choses à aller dénouer, qui me restent encore peut-être des blocages ou des fausses croyances qui me restent, peut-être de souffrances que j'ai eues dans certaines vies. Mm-hmm. Et des fois, ils m'apparaissent et puis comme ça, je peux aller faire le travail pour dénouer ça, mm-hmm. de manière à ce que j'en subisse plus les conséquences dans cette vie-ci, parce qu'il y a des fois des traumatismes qu'on ramène malgré tout de ces vies antérieures. Mm-hmm. Donc oui, j'ai pas mal d'images de vie que j'ai eues.
Vous voyagez beaucoup, vous avez de la chance.
J'adore ça.
Ouais, bah c'est impressionnant. Et j'avais une question qui m'échappe, mince.
Si vous n'en avez pas ou plus, ou si vous voulez comme ça avoir un petit moment pour vous, je peux reprendre la main, Olivia Seigne, si vous voulez.
Ça y est. Ah. Je voulais savoir si vous pouviez, si ça, pareil en fait, ça ressemble un peu à la question que vous m'avez posée. Est-ce que vous pouvez invoquer c'est par votre désir, par votre justement votre volonté peut-être, ces vies antérieures, antérieures et intérieures, ou bien est-ce qu'elles arrivent comme ça? Enfin, est-ce que vous avez un peu des flashs qui vous viennent comme ça? Enfin, ma question est un peu maladroite, pardon.
Non, je comprends. Il y a des fois où ça vient spontanément. Il y a des fois où je vais me mettre, moi, en état de méditation très profond, peut-être au point où on appelle ça, on se met en un peu en, soit en canalisation, ou vraiment c'est un état de méditation extrêmement profond. Et là, je peux avoir accès. Mais maintenant, j'ai aussi conscience que je vais avoir accès uniquement à ce que j'ai le droit d'avoir accès. Il y a des choses où c'est encore pas opportun, c'est encore pas le moment, et j'aurai pas les images, on me les montrera pas. Parce que peut-être que ça influencerait mes choix. Et du coup, j'aurai pas les informations. C'est vraiment, on me donne les infos que j'ai le droit d'avoir, et c'est quelque chose que j'ai accepté, c'est comme ça.
C'est une manière de conserver votre libre arbitre, Françoise Claire, vous pensez ?
Tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que si on avait tous le souvenir de nos vies antérieures, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà vécu, déjà il y a des choses qui font peur, hein, on serait peut-être pas très heureux de le savoir, de ce qu'on a fait. Mmh. On a tout expérimenté selon moi, donc il y a des fois où on a été vertueux, mais des fois on n'a pas tant été vertueux quand même. Donc il faut réussir à l'accepter.
Vous pensez que toutes ces vies antérieures, elles se succèdent comme ça à un rythme continu ? Est-ce que parfois il y a des pauses, ou est-ce que parfois ce rythme de vie et de mort s'arrête dans votre croyance à vous, Françoise Claire ? Comment ça s'organise tout ça ? Est-ce que vous pensez que vous aurez le droit au repos éternel une fois par exemple ?
Je pense qu'on tend à ça, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il y a encore quelques vies qui m'attendent avant. C'est un chemin d'évolution d'âme. Je pense qu'entre deux incarnations, il y a des années qui passent. Je pense que ça peut même passer des fois plusieurs centaines d'années, des fois des dizaines seulement d'années. Ça dépend. Et je pense qu'entre deux vies, on n'a pas la notion du temps, justement. Donc, il n'y a pas du tout ces trois dimensions qu'on a ici. Il n'y a pas la même perception. Donc, qu'importe qu'il y ait 10 ans ou qu'il y en ait 100 entre deux, c'est pas très important. Je pense que quand on n'est qu'une âme, on est une énergie, on n'a pas cette conscience-là. Et puis, évidemment, je pense que c'est pour accéder, justement, à cette libération d'âme, hein, où on n'a plus besoin de faire cette évolution. Mais alors, à quel moment ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de job avant d'en arriver là.
Est-ce que vous voyez, on va dire, notre existence terrestre comme l'endroit où tous les challenges sont permis ? C'est là où on expérimente les sentiments les plus terribles. Et puis, une fois qu'on redevient, on va dire, une âme dans l'univers, comme ça, c'est l'image que vous m'avez comme ça transmise que par vos paroles. Est-ce que c'est là que se trouve la paix ? Et puis, c'est sur Terre qu'on doit justement essayer de vivre toutes ces choses qui nous permettent d'évoluer ?
Je pense que c'est tout à fait ça. Quand on est dans une vie, en fait, on expérimente. Donc, il y a tout ce qui est en lien avec ces trois dimensions. Les émotions, c'est quelque chose qui nous amène tellement loin. On expérimente cette matière, on expérimente les limites du corps, on expérimente le libre arbitre, on choisit d'avancer ou de pas avancer, on choisit un petit peu l'état d'esprit quand même de ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie de vraiment de faire ? Est-ce que j'ai réellement envie d'expérimenter ? Je pense que si on arrive à percevoir la vie de cette manière-là, ça change les choses, parce que si on s'imagine que c'est ça, mettons que une vie, une intégration, ça correspond à une année d'école, finalement. Je viens à apprendre et expérimenter. Si on regarde la vie comme étant une succession d'incarnations différentes, ça permet de relativiser passablement les choses et de se rendre compte que il y a tellement de choses où on met tellement d'importance, et puis avec le recul, est-ce que c'est réellement important? Et si on se dit, mais finalement, c'est une vie et je viens là pour expérimenter, mais allez, allons-y, expérimentons, essayons. La peur bloque énormément de personnes. Je pense que c'est le pire, c'est la peur. Alors si on se dit, mais si je viens là, c'est bien pour expérimenter, allez, j'y vais, je me permets. Ça ouvre plein de champs des possibles.
Olivia Seigne, la comédienne et metteuse en scène que vous êtes, comment est-ce que ça résonne en vous, ces mots ?
Oui, ça résonne profondément, en fait. Et effectivement... Je pense qu'on est aussi notre pire juge, et ce juge-là est souvent effectivement nourri par la peur. Et que quand on arrive à laisser un peu, à élaguer ça, on vit tellement mieux, malgré le fait que, bah, bien sûr, il y a des choses qui sont très difficiles pour beaucoup de gens. Mais en tout cas, voilà, on se complique pas, on se simplifie pas la tâche sur cette terre. Mais bon, le chemin est long, comme vous dites. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
C'était Queen sur la première avec Kind of Magic. Bah oui, il y a de la magie aujourd'hui dans le studio avec Françoise Claire, guérisseuse et médium. Et puis Olivia Seigne, comédienne et metteuse en scène. Il paraît que vous avez même appris à faire des tours de magie une fois pour un spectacle, c'est juste?
Ah oui, oui. Oui, c'était pour un spectacle qui s'appelait Miss Poppins. Voilà, je jouais Mary Poppins et effectivement, j'ai appris des tours de magie avec Pierrick Tantoret qui est magicien. Et voilà, et j'ai beaucoup travaillé et j'avais le trac parce que si Mary Poppins loupe ses tours de magie, elle a l'air maligne, quoi. Donc...
et pouf, ça retombe, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais c'était chouette, j'ai eu de la chance. C'était une jolie pièce, c'était un rôle magnifique. Des mois après, encore, il y avait des enfants qui venaient vers moi puis qui disaient « Vous êtes Miss Poppins ?» Je disais oui.
Mais ça voilà. Vous va assez bien, non, Olivia Seigne, d'être un peu Mary Poppins comme ça. Vous avez un peu la tête à l'emploi, si j'ose dire.
Merci.
La tête de l'emploi.
Les yeux pétillants.
Oui.
Bah, je sais pas. Merci. J'aime m'amuser, j'aime ces instants de magie entre les gens. Voilà. Donc. J'aime les gens aussi, donc ouais.
Le théâtre, la mise en scène, c'est aussi un peu de la magie d'une certaine manière, Olivia Seigne. C'est oser créer des mondes parallèles, comme ça on peut expérimenter d'autres personnalités, d'autres situations.
Ouais, tout à fait. C'est pouvoir vivre d'autres vies que la nôtre, avec plein d'autres personnes. Le théâtre, c'est vraiment, c'est une histoire de rencontre aussi, beaucoup. C'est l'échange, c'est la joie du partage. C'est la joie aussi d'un public ensemble qui vibre aux mêmes émotions dans une salle et qui, enfin voilà, rire ensemble ou rire tout seul devant son écran, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, moi, ça m'a manqué, en fait, ces mois derniers sans théâtre, et je suis contente que ça rouvre un peu, parce que je pense que c'est vraiment des occasions d'échanges profonds qui se passent un peu ailleurs, dans un autre endroit, mais qui nous aident à vivre, à réfléchir, voilà, qui sont des baumes pour l'âme aussi.
Vous êtes en ce moment sur différentes pièces, Olivia Seigne, notamment La Flûte Enchantée.
Oui, tout à fait. Alors c'est un opéra que je vais monter en été 2022, qui a été reporté, qui devait se faire en été 2020. Et c'est grâce à l'association Ouverture Opéra qui propose chaque 2 ans un opéra en Valais à la Fermasille. Et depuis quelques années, ils me mandatent pour m'occuper de la mise en scène. Et j'ai vraiment beaucoup de chance, j'aime beaucoup faire ça. Le premier, ça a été l'Orfeo de Monteverdi. Après, on est passé à la Belle Hélène d'Offenbach. Et maintenant, voilà, c'est la Flûte Enchantée de Mozart qui m'attend, dirigée par Pierre Bleuze. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment très reconnaissante. Parce que le jour où on m'a proposé de mettre en scène un opéra, c'était vraiment vertigineux. J'ai eu peur, voilà. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment je peux m'aventurer dans cette zone, dans ce territoire inconnu? Et puis, on ne sait pas, peut-être que des fois, on s'y aventure avec beaucoup de courage, mais on n'est pas fait pour ça. Mmh. Et là, heureusement, ça a pris. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me correspondait. Mmh. Et j'aime le monde de la musique. C'est merveilleux, la musique. Ça ouvre tellement de portes. J'aime les chanteurs. Ce sont tous des Orphées. Donc voilà, qui nous charment, qui nous emmènent dans d'autres mondes. Donc de pouvoir baigner et vivre dans cette musique, dans ce monde-là, c'est vraiment une grande, grande joie.
Olivia Seigne, alors vous, le théâtre, c'était comme ça une flèche dans votre vie, hein. C'est quelque chose que vous avez expérimenté, je crois, dès l'adolescence, en Valais, puis après vous êtes partie à Paris étudier au cours Florent, puis ensuite vers Niels Harestrup, qui est ce monsieur avec ce nom tellement super.
Eh bien, c'est un comédien d'origine danoise, Niels Harestrup, qui a travaillé pour Peter Brook. Et à un moment donné, dans son parcours, il s'est dit, j'ai tellement reçu, en fait, que j'aimerais pouvoir donner aussi un peu. Et donc, il a ouvert cette école. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est un grand comédien. Il m'a donné vraiment Ouais, quelques outils qui m'accompagnent encore. Et voilà, je l'ai perdu de vue, mais c'est pas grave.
Et puis ensuite, la Russie, Moscou, vous êtes partie normalement pour essayer du théâtre aussi, mais je crois que vous avez plutôt passé votre temps à vous promener, si j'ai bien compris, et à flâner.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, voilà, quand j'étais adolescente, je lisais j'ai découvert Dostoïevski, Tchekhov, et mon grand rêve, c'était un jour de parler russe, de lire ses auteurs en russe et de jouer Nina de La Mouette, merci, de Tchekhov. Voilà, c'est rêve comme ça d'enfance. Et puis donc j'ai fait des études de russe et j'avais décidé un jour de prendre une année sabbatique et de partir en Russie faire du théâtre. Alors déjà, faire du théâtre, c'était, quand je repense à ça, ça me fait rire, parce que j'allais chercher là-dedans, je sais pas exactement quoi, il y avait quand même quelque chose du rêve, mais je voulais faire du théâtre à Moscou. Et la dame chez qui j'habitais, qui est devenue une amie, connaissait le directeur du GITIS, qui est la plus ancienne académie d'art dramatique russe, et elle m'avait dit je te présenterai, tu pourras étudier là-bas. Et en fait, chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que je pouvais pas aller dans ce GITIS. Il y avait des vacances, il fêtait un jubilé. Puis elle me disait, mais tu t'inquiètes pas, tu profites de la vie moscovite avec ses enfants. Elle avait deux garçons qui sont tout de suite devenus mes frères. Et donc, en fait, effectivement, j'ai passé une année à faire beaucoup la fête. Voilà, à boire de la vodka, à rigoler, à me promener, à faire des choses insensées. Et il y avait une certaine frustration, mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais quelle richesse, quelle chance j'ai eu de vivre ça. En fait, je pense que c'était beaucoup mieux que d'aller peut-être me mettre dans une salle avec des cours de russe où j'aurais pas tout compris, où je me serais un peu ennuyée, où j'aurais été un peu décalée.
Vous voilà. Avez vécu l'âme russe pour,
ah oui, alors à
pour
fond.
Le coup. Hein, il y a quelque chose encore qui rayonne de ça, hein, en vous, Olivia Sen, je crois. Vous faites beaucoup la fête.
Je me suis un peu calmée, mais oui, j'aime bien, j'aime faire la fête. Oui, 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 je fais la fête et j'aime. Voilà, les grands moments pour moi, c'est la convivialité autour d'un bon repas avec des amis. Et puis quand tout à coup, ça s'enclenche vers quelque chose de festif, on met de la musique et on danse et on rigole. Ben voilà.
Vous le portez sur vous, Olivia Sen, j'ai envie de dire. À côté de vous, il y a Françoise Claire. Françoise Claire, avant d'être la médium et guérisseuse que vous êtes, vous avez exercé comme dessinatrice en métallurgie, c'est bien juste ?
Construction métallique.
Construction métallique. Expliquez-nous alors, comment est-ce qu'on passe de la construction métallique à quelque chose, voilà, de beaucoup plus subtil ? On va dire, vous étiez dans la matière pour le coup.
Alors vraiment dans la matière, même dans un monde d'hommes. J'ai fait ce métier par passion. C'est quelque chose que le dessin technique, j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait pas de questionnement. C'était évident que j'allais dans le dessin technique. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis rapidement mise à mon compte dans ce domaine-là. Et puis, voilà, j'étais vraiment en tant qu'indépendante là-dedans. Je m'éclatais. Tout allait parfaitement bien. Et puis, ce côté médiumité, ce côté de ressenti et tout ça, c'est gentiment redéclenché. Et puis après, ben, il a fallu faire ça un petit peu en parallèle. Et puis petit à petit, c'est parti vraiment dans ce domaine qui est la subtile, qui est vraiment très subtil. Et j'ai lâché pas mal de la matière finalement.
Avec du regret parfois, vous aimez revenir des fois à quelque chose de concret, parce que quand on passe toute sa journée dans les énergies avec je sais pas moi, un rapport à quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas, en tout cas pas directement, ça vous manque des fois?
Alors, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la montagne. C'est là que je retrouve, où je vais me recharger, où je vais remettre mes racines, où je vais aller chercher cette matière-là. C'est vraiment dans la nature et dans la montagne. Ça m'apporte énormément. Mais en même temps, dans la nature et dans la montagne, il y a beaucoup d'énergie. Donc, il y a toujours ces deux pôles, finalement. Mmh. Et pour moi, c'est très important de quand même garder ces deux pieds sur terre. On peut pas être, à mon avis, que dans la spiritualité, parce qu'il faut ces deux pôles en permanence. Une âme, elle est spirituelle, on vient de là. Et si on est incarné, c'est bien pour amener cette spiritualité, dans la matière. Et si on se déconnecte du sol, ben on l'amène pas dans la matière.
Donc l'importance d'être dans les deux à la fois, Françoise Claire.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez besoin d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en méditation pour percevoir ces fantômes, ou alors sur comment dire, je sais pas comment qualifier en fait toutes ces personnes ou toutes ces énergies que vous percevez. Donc ma question, je la reprends. Je crois que je suis partie comme ça un peu dans
vous
mon
aussi.
Exactement. Non, Françoise Claire, ma question c'était, est-ce que vous avez besoin d'être connecté à un état méditatif pour percevoir toutes ces choses, ou est-ce que ça peut vous apparaître tac maintenant et puis au-dessus de l'épaule d'Olivia Seine, vous allez découvrir quelqu'un, quelque chose?
Alors ça peut apparaître tac maintenant, effectivement. Mais si je suis dans un état de stress, par exemple, où j'ai 12 000 choses à faire, où je suis complètement dans mon mental, ça va être compliqué de le percevoir parce que mon mental, il est occupé à autre chose. Mon esprit est occupé à autre chose. Donc en règle générale, il faut quand même que je sois détendue, que je sois bien, que je sois un petit peu réceptive. Parce que le stress, il n'y a rien de pire pour justement ne plus écouter ses intuitions, ne plus écouter ses ressentis. Donc avant de recevoir quelqu'un en séance, je vais forcément prendre quelques minutes pour me recentrer, retravailler mes ancrages, être sûre que je suis bien ancrée à la terre. Le spirituel, c'est jamais très compliqué, j'y suis en permanence. Mais bien revenir à la terre et puis faire descendre un peu ce filtre qui est le stress et justement l'occupation du mental en permanence. Parce qu'on a toujours, le mental, il n'arrête pas de turbiner. Mmh. Donc il faut un petit peu le mettre sur pause et puis laisser apparaître le reste.
Françoise Claire, vous avez commis cet oracle que j'ai dans les mains, ça s'appelle la puissance du cœur, oracle d'éveil. C'est un jeu de cartes assez simple, et si j'ai bien compris, il s'agit juste de prendre le jeu dans ses mains, d'énoncer une question à haute voix ou dans sa tête, et puis de regarder quelle carte on a envie de, voilà, vers laquelle on est attiré. C'est comme ça que vous l'avez pensé. C'est quoi l'histoire de ce jeu, en fait, Françoise Claire?
Alors, ça, c'est, pour moi, le cœur, c'est extrêmement important. C'est vraiment, tout passe par le cœur. De toute manière, quand on vit un blocage, une souffrance, un problème, c'est le cœur. C'est tout de suite le cœur qui se resserre, on le sent. Et quand on a des joies, c'est aussi le cœur. Tout passe par là. Le cœur peut tout transcender, comme il peut voilà, il peut se fermer et refuser les choses. Et pour moi, c'est vraiment un énorme outil d'évolution, le cœur. Si on en prend conscience et si on va travailler avec le cœur, ça permet vraiment, vraiment d'évoluer. Ça permet de lâcher ses blocages, de pardonner, de faire vraiment un travail sur soi. Et ça m'a été complètement inspiré par ce que j'appelle mon staff, c'est-à-dire les êtres spirituels avec lesquels je travaille. Pour m'éviter de les nommer, mais je les appelle mon staff, mais soyez bien clair, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent pour moi. On fait tous partie du staff et on travaille ensemble. Simplement, eux sont dans l'énergétique et moi, je suis dans la matière. C'est la seule différence.
Il y en a beaucoup?
Il y a pas mal de monde. Il y a des défunts, il y a mes guides, il y a des anges, il y a des maîtres ascensionnés, il y a des êtres de lumière, il y a pas mal de monde. Ça, c'est évolutif en plus. Il y en a de ceux qui sont là depuis longtemps et dernièrement, j'ai eu pas mal de changements de poste en fait. Il y en a qui sont partis, il y en a de nouveaux qui sont arrivés. Des fois, c'est un peu perturbant, effectivement, quand ça se passe. Parce qu'on sent qu'on dit au revoir à une présence qui était là depuis longtemps.
Et vous les reconnaissez comment?
Alors maintenant, j'essaye plus de... Justement, c'est pour ça que je dis mon staff. J'essaye plus de mettre des noms. Ok, je capte si c'est un ange, si c'est un être de lumière, si c'est un défunt. Ça, c'est relativement facile. Mais autrement, dans les êtres de lumière, j'essaye pas de dire ben c'est l'être de lumière 1, le 2 et le 3. C'est pas très, très important. Je sais qu'ils sont là et on communique.
C'est plus une sensation.
Voilà, c'est une sensation, c'est une présence. Donc, je les sens.
C'est eux, c'est votre staff, comme vous l'appelez, parce que c'est utile des fois de trouver des mots hein, pour pouvoir communiquer là autour. Je me rends compte de la difficulté que ça représente, en tout cas avec les mots qu'on utilise tous les jours pour pouvoir parler de choses que finalement qui sont difficiles à sentir et à voir pour plein de personnes. Ce jeu, la puissance du cœur, oracle d'éveil, il vous a été soufflé donc par cette équipe avec laquelle vous travaillez au quotidien pour aider les gens, c'est ça?
Alors en fait, je me mettais en état de méditation très profond qui s'apparente à de la transe et je recevais les textes de cette manière-là. Alors c'est soit je les écrivais en direct, soit je m'enregistrais et je parlais et les mots arrivaient. Et quand on travaille de cette manière-là, on n'a pas la réflexion, il n'y a pas le mental qui rentre en ligne de compte. Ce qui veut dire qu'on dit les mots ou qu'on les écrit, mais on ne sait encore pas le prochain et on a déjà oublié celui d'avant. C'est vraiment le mot sur le moment quand on le prononce ou quand on l'écrit, mais on n'a aucune notion de la phrase que ça va faire. C'est seulement à la fin, quand on se réécoute ou quand on lit ce qu'on a écrit, qu'on se dit « Ah, mais c'est pas mal ce qui a été dit là ». Mais sur le moment, je suis incapable, et même après, je suis incapable de vous dire ce que j'ai écrit. Il faut que je le lise parce que j'ai pas ce mental qui rentre en ligne de compte. Et en même temps, il m'indiquait le dessin qui va avec. Et du coup, moi, je le faisais sous forme de croquis. Et j'ai cherché un illustrateur, un dessinateur qui a pu reproduire ce que je ressentais et les croquis que j'avais fait et qu'on soit dans la même dynamique. Je voulais quelque chose qui soit tout doux. Le cœur, c'est la guérison, c'est l'amour, et je voulais que pour moi, il y a déjà de la guérison dans un dessin, si on veut bien s'y connecter, comme dans une peinture, comme n'importe quelle. La musique, vous parliez de la musique, c'est déjà une forme de guérison pour autant qu'on veut bien s'y connecter.
Vous l'avez pensé pour qui, alors, cet oracle? C'est pour tout à chacun? Est-ce qu'il faut déjà avoir, comment dire, des formes de connaissances pour pouvoir se connecter à ce que vous proposez ou pas?
Non, moi, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Les enfants ont une très grande sensibilité. Pour eux, ça match direct. Quand ils lisent un truc, ils comprennent exactement où ça veut aller et ce qu'ils ont à comprendre. Et puis, il n'y a pas d'âge, c'est juste, est-ce qu'on en a envie? Et c'est de se dire, mais, quelle est l'information? J'en suis où maintenant? Si je m'adresse à mes guides, qu'est-ce que vous avez envie de me transmettre? Qu'est-ce que je pourrais transcender, comprendre, éveiller? Et tirer une carte et de voir le message qui est transmis.
Bon, j'ai passé brièvement le jeu à Olivia Sen qui n'a pas tiré de carte. Je pensais qu'elle le ferait. Vous avez peur?
Non, mais je peux pas tout faire à la fois. Moi, je peux pas écouter et puis aller chercher une carte.
Bon, bah voilà. Moi, j'ai tiré le lâcher prise. Voilà. En plein direct, comme ça, à la radio, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié. Mais disons que vous avez voulu ce jeu pour, entre guillemets, apaiser le cœur des gens. C'est ça? Qui puisse, entre guillemets, poser une question par rapport à une situation de vie et puis tirer une carte pour faire une méditation, pour pouvoir réfléchir autour d'un thème, c'est ça?
C'est ça. Pour prendre le temps, ben, là, vous avez le lâcher prise. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une information par rapport à ça. De voir le texte qui vous est transmis et plus tard de prendre un petit peu de temps pour y réfléchir en disant, ben voilà, quelle est la situation sur laquelle j'arrive pas à lâcher prise en ce moment? Qu'est-ce qui résonne en moi et ça m'est trop compliqué de lâcher et de prendre le temps après? Parce que si c'est juste pour lire la carte et puis on passe à autre chose, finalement, on n'apprend pas et on prend pas ses opportunités. Donc je me dis, il faut prendre cette opportunité-là, la carte que je tire, accepter qu'elle a vraiment une information à me transmettre et la laisser résonner en soi.
Mmh. C'est un jeu qu'on trouve dans toutes les librairies, parce que c'est Favre qui le fait. Oui. Donc voilà, c'est l'idée de le trouver dans les endroits où on lit des livres. C'est
exactement.
Ça. Olivia Sen, vous avez donc saisi le jeu, vous en avez tiré une. Qu'est-ce que vous avez attrapé, vous?
Les ondes de guérison.
Ça vous inspire quelque chose ou est-ce qu'on part en musique?
Ah oui. Ah ben ça m'inspire un projet sur lequel je suis en train de travailler.
Mais oui, c'est vrai, Olivia Sen. Ben on pouvait pas tomber plus pile dans le mille que ça. Ça s'appelle Parole et Parole.
Tout à fait. Alors, c'est un projet qui m'a été inspiré par une femme qui est infirmière aux soins palliatifs, spécialisée aux soins palliatifs, qui s'appelle Jocelyne Métraillé-Alsayek, et qui, par son métier, a été souvent confrontée au pouvoir du langage dans l'art du soin, à son influence, à l'importance du choix des mots, et malheureusement des fois, effectivement, au fait que les soignants, mais aussi les patients, ne manient pas le langage de façon qui puisse aider à la guérison, en fait. Je m'exprime mal, je m'excuse. Mais c'est un projet que nous proposons avec Jocelyne. C'est une petite forme théâtrale itinérante. Là, maintenant, nous sommes dans une période où nous récoltons des témoignages de personnes qui sont qui sont soignants ou alors qui sont patients et qui ont été confrontées à des violences dues à une mauvaise utilisation du langage, du choix des mots ou de l'intonation. On a tous plus ou moins été confrontés parfois à des tons condescendants ou bien des tons infantilisants et toutes ces choses-là qui sont très importantes et qui peuvent aider à guérir. Et voilà. Et alors nous, on aimerait proposer une petite forme théâtrale mais qui soit pas moralisatrice, qui soit juste des petites prises de conscience comme ça, comme des petits poissons qu'affleurent à la surface de l'eau avec délicatesse, subtilité et humour, j'espère.
Et l'idée, c'est donc de pas utiliser l'espace du théâtre mais d'aller dans les MS, d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les endroits où ça se passe, entre guillemets, pour, en guillemets, trouver une manière de parler aux gens qui sont des fois dans des détresses importantes, sans les obliger, c'est ça? Comment ça va se passer? Vous allez arriver, faire ça au milieu d'un couloir? Enfin, comment est-ce que ça va être proposé, disons?
On est en train justement de voir comment dans la situation sanitaire qui nous entoure, comment on va pouvoir se poser dans ces endroits, peut-être dans les jardins ou bien dans des salles assez grandes et tout ça. Jocelyne, elle donne des conférences, elle donne des cours, donc c'est elle qui introduira et il y aura une espèce de surprise comme ça avec un autre comédien où ce soi-disant colloque aboutira à une petite forme imaginaire. Ça prendra peut-être la forme d'une sorte de prise de parole.
Donc c'est plutôt court et c'est plutôt à l'extérieur ou dans des endroits comme ça où on peut se rassembler avec de l'espace et ça concerne autant les soignés que les soignants, c'est
exactement,
ça
c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, on cherche encore des témoignages, on en a déjà pas mal. Comme par hasard, ce sont surtout des femmes qui nous font confiance et qui nous parlent de leur vécu. Donc si vous êtes intéressé à nous faire part de votre expérience, on a une adresse mail qui s'appelle paroles@gmail.com. Le premier parole, tout d'un tenant, mais le premier parole a un S.
Très bien, Olivia Seigne. Juste, quel genre de témoignage vous recherchez exactement?
Des témoignages de personnes qui auraient été confrontées à une expérience douloureuse par rapport ou joyeuse par rapport à l'usage du langage. Par exemple, ça peut être l'annonce d'un diagnostic qui est pas adéquat ou la manière dont on vous apprend le terme de votre maladie. Ou bien ça peut être l'expérience d'un soignant qui dit à ce moment-là je ne savais plus quel mot utiliser. Ou voilà quand j'ai un patient qui me parle de telle maladie, ça déclenche en moi telle émotion. Alors que si c'est une autre maladie, c'est cela. C'est aussi cette vigilance que le soignant a souvent dans son travail par rapport au langage aussi. Mmh. Voilà, c'est tout ça.
Pardon. Bien sûr. Françoise Claire, ça vous évoque un commentaire?
Je trouve intéressant parce qu'en fait, vous parlez du langage du cœur et c'est pas forcément donné, pas forcément facile dans certaines situations. Et il y a justement certaines situations où les gens sont mal à l'aise et ne savent pas comment se comporter. Et ça peut énormément blesser. Et si on arrivait à laisser parler notre cœur, ça serait tellement plus facile. Mais il y a des fois une distance qu'on nous apprend à garder. Et du coup, on est des fois un petit peu des robots et on n'ose pas laisser parler le cœur.
Puis je pense que dans le domaine du soin, c'est un travail très exigeant, très difficile, soumis au stress. Et donc, quand il faut encore en plus s'appliquer à utiliser, à chercher le bon mot et avoir le bon ton, c'est encore une autre chose, c'est très difficile, et ça je comprends bien. Mais je pense qu'on devrait tous ensemble, la collectivité, être attentif à ça. Parce que la parole, elle peut soigner, mais effectivement, elle peut tuer aussi, d'une certaine manière.
Merci beaucoup, Olivia Seigne et Françoise Claire. On va jeter un œil sur la route, et puis ensuite, on écoute Marc Aymon.
Infotrafic RTS.
En Suisse alémanique, l'autoroute A1 Zurich-Berne est fermée entre Krickstetten et Kirchberg en direction de Berne à la suite d'un accident. À l'arrière de cette fermeture, le trafic est à l'arrêt entre l'échangeur de Lutterbach et Krickstetten en direction de Berne. Depuis ce même échangeur de Lutterbach, il est conseillé d'emprunter l'autoroute A5 et de transiter via Bienne pour contourner cette fermeture. C'est l'Oiseau et Marc Aymon sur la première.
La colère, guère lasse, le temps qui passe, voir s'envoler l'oiseau moqueur qui sent en cœur sans s'approcher. Cette lumière, ce serait bien, c'est toi qu'elle viendrait consoler. 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 Ce serait bien, ce serait bien, c'est toi qu'elle viendrait consoler. Ce serait bien, ce serait bien, c'est toi qu'elle viendra consoler.
Marc Aymon sur la première avec ce titre L'Oiseau. Un titre tout neuf qui date de ce début d'année. Françoise Claire, médium guérisseuse, et Olivia Seigne, metteuse en scène et comédienne, sont les invités de Premier Rendez-vous aujourd'hui. Et c'est le moment de sortir vos objets. Alors, qu'avez-vous apporté, Olivia Seigne?
Alors moi, j'ai écouté, j'ai apporté des chants de grenouilles.
C'est parti. Pas sûr que vous les ayez entendus, Françoise Claire. Mais Olivia Seigne, alors ces petites grenouilles, d'où elles sortent?
Eh ben, elles sortent de ma promenade d'hier soir. J'ai la chance d'habiter près d'un petit lac. Et voilà, il y avait ce concert de grenouilles, cette explosion sonore, ce petit orchestre joyeusement nocturne, dans un hymne à l'amour, et c'était tellement beau, et ça m'a rempli de joie. Tout à coup, on est en vallée, mais on est aussi dans plein d'autres mondes, on est en contact avec la nature, avec ces petits êtres magiques, et c'était très beau, voilà.
Donc c'est à Sierre que ça se passe, ce concert de grenouilles,
oui.
C'est ça?
Et je n'en dirai pas plus.
J'adore.
Si jamais dans quelques minutes, dans Brouhaha, ça va parler de grenouilles aussi. Hein.
Ah bon, bah
comme
voilà.
Quoi, l'émission pour les enfants qui est à 16h. Voilà. Olivia Seigne, ces petites grenouilles, donc c'est à Sierre que ça se passe. Vous avez grandi à Verras avec une maman peintre, une grande tante, je crois, vraiment rigolote, et puis une grand-maman à moitié bulgare qui avait comme ça beaucoup de joie de vivre, si j'ai bien compris, non?
Alors tout à fait, une grand-maman complètement bulgare.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Une mère artiste peintre. Qui m'a je profite pour dire un petit mot d'elle. Voilà, je suis touchée parce que c'est quelqu'un de merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance d'être élevée par cette mère artiste peintre pleine de poésie, de joie de vivre. C'est un personnage, voilà, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de joie et de force aussi. Et puis c'était un petit monde occupé pas mal par des femmes, en fait, ma grand-mère bulgare qui disait ma petite chérie, va me chercher la clé dans le petit tiroir, comme ça, qui avait gardé son accent bulgare et qui était vraiment quelqu'un d'assez étonnant, voilà. Et puis aussi une grande tante mosaïste, tout un monde de femmes qui m'ont beaucoup apporté, auxquelles je pense souvent. Ben voilà, il y en a qui sont décédées, mais elles m'accompagnent, elles sont là, je les sens.
Olivia Seigne, vous étiez la messagère quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que, alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, le téléphone existait déjà quand j'étais petite, mais elle, plutôt que de se servir de cet outil, ma mère, ma grand-mère, ma grande-tante préféraient m'envoyer porter le message. Donc voilà, je devais aller dire ceci à ma grand-mère, et en même temps, je voyais des fois, c'était pas toujours des messages délicats, parfois c'était des choses qui énervaient l'autre, et donc je revenais avec ce message, porteuse non seulement de la réponse, mais de l'émotion qui allait avec. Et peut-être avec le recul, je me dis que c'était déjà une sorte de petite pièce de théâtre.
Ah bah oui, la comédienne que vous êtes, clairement, il y a quelque chose là. Hein.
Oui.
Vous êtes nourrie de ça, j'ai l'impression.
Oui.
C'est très joli comme histoire, Olivia Seigne. Françoise Claire, votre objet à vous, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est aussi tout original. C'est un tatouage que j'ai dans le dos.
Est-ce qu'on peut le voir?
Si vous voulez, mais à la radio, ça va être un peu compliqué.
Non, mais qu'est-ce que ça représente?
Alors, ça représente un lotus, la fleur, et ça représente le Om, le sigle Om, en fait. Et pour moi, ces deux choses ensemble, ça représente la spiritualité, c'est mon lien avec mon staff, avec la spiritualité. Puisqu'on sait que le lotus, c'est vraiment le symbole de la spiritualité. C'est aussi une fleur qui pousse, les racines sont plutôt dans de la boue. Et elle fait fi un peu des difficultés et elle s'accroche et finalement ça donne une magnifique fleur. Et puis le home, eh bien c'est l'évolution de l'âme, c'est se transcender, c'est l'épanouissement de l'âme, c'est le chemin qu'on fait tous.
C'est important pour vous de, comment dire, de le faire figurer quelque part sur votre corps, ça?
Oui, c'est vraiment le lien, c'est mettre un symbole sur ce lien, en fait. C'est important pour moi, effectivement.
Mais, pour le coup, alors, c'est vraiment un tatouage que vous gardez pour vous, ou bien vous aimez porter des robes échancrées l'été pour que tout le monde le voit ou pas du tout?
Non, j'avoue que je l'oublie. Je l'oublie même, il est là, et des fois, quand, pour une raison X, je vois mon dos, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ouais, il y a ça. Ça fait complètement partie de moi, maintenant, et non, je m'habille pas en conséquence, absolument pas.
Donc c'est vraiment quelque chose pour vous, quoi.
Tout à fait.
Françoise Claire, les gens qui auraient envie de vous rencontrer avec votre consoeur Fabienne Deyer-Deriva, comment ils font?
Alors, soit par notre site, françoiseetfabienne.ch, ou alors notre numéro de téléphone, le 079 736 29 36.
Et bien voilà, Françoise Claire, ça c'est pour les gens qui auraient envie de peut-être profiter d'un soin, ou alors de tirer une carte d'oracle avec vous, ou de peut-être justement, voilà, essayer de faire face à quelque chose qui existe dans leur vie, et puis de proposer, que vous leur proposiez quelque chose de différent, de plus énergétique, de peut-être un peu moins mécanique, c'est ça?
Avec grand plaisir.
Eh bien, merci Françoise Claire d'être venue à la rencontre de Olivia Seigne. Vous, c'est de quel côté qu'on retrouve vos informations, Olivia Seigne? Il y a un endroit où vous publiez assez régulièrement, je sais pas, vos pièces, vos états d'esprit?
Alors, on a un site avec Alexandre Fogel, avec qui on partage cette compagnie, Stogram. Ça s'appelle Stogram, avec deux M, .ch. Voilà.
Tout simplement. Oui. Olivia Seigne, eh bien, merci à vous. Le prochain spectacle qu'on pourra voir de vous, ce sera quand?
Ce sera les conquêtes de Norman en décembre. Ça commence au TLH, puis il y a une petite tournée. C'est de l'humour anglais, Alan Ayckbourn, c'est délicieux. Voilà, je vous recommande.
Allez, alors bonne suite et trois fois merde, comme on dit dans le métier. Merci beaucoup à toutes les deux et bon retour en Valais à toutes les deux aussi.
Merci beaucoup, merci pour cette rencontre.
Merci.
Avec plaisir. En régie aujourd'hui, c'était Mathias Brunimann qui assurait la réalisation de cette émission. Les choix musicaux sont signés par Jean-Baptiste Roumens et notre attaché de production, c'est Marilyn Regard. D'ici quelques instants, vous aurez le plaisir de retrouver Lucas Torrent pour À l'abordage. Et si vous avez envie de nous faire une proposition d'inviter, une seule adresse, rdv@rts.ch. Il est 15h sur la première, à demain.